Bonsoir, les grandes doctrines sociologiques, et nous commencerons ce soir par parcourir certains aspects de l'œuvre d'Aristote. Avant d'aborder directement l'œuvre d'Aristote, je voudrais installer le cadre de ce cycle. Pourquoi les grandes questions de sociologie ? À quoi faut-il s'attendre quand on parle de sociologie ? La question sociologique est en effet très récente. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut s'étonner d'y trouver Aristote. Puisque la sociologie comme discipline, avec un logis pour l'orner, date du XIXe siècle, puisque vous savez que le mot sociologie est d'Auguste Comte. Et que la sociologie comme science, comme discipline, se constitue après le mot, puisqu'on peut dire que la sociologie comme discipline se constitue avec Durkheim. Donc nous allons rencontrer Aristote, Auguste Comte, Durkheim, Marx, Weber et Bourdieu, merci. Et donc il y aurait d'autres noms, je les ai choisis parce qu'ils me semblaient particulièrement significatifs de l'interrogation sociologique. Alors on va d'abord consacrer un certain temps à poser les questions que nous allons croiser au cours de ce cycle. On peut dire que la première question, la plus simple, c'est qu'est-ce qu'une société ? Qu'est-ce qui fait que des hommes rassemblés en quantité, en une certaine quantité, forment une société ? Et on pourrait se dire, eh ben voilà, vous qui êtes ici ce soir, est-ce que vous formez une société ? Vous ne vous connaissez pas, il y a quelques visages amis, je suis content de les saluer, quelques visages nouveaux, je les salue également avec joie. Mais enfin bon, vous ne vous connaissez pas vraiment, j'en connais quelques-uns. Est-ce que vous êtes une société ou un agrégat de hasard ? À cela, il y a deux réponses possibles, me semble-t-il. Vous pouvez dire, eh bien, nous formons une société parce que nous sommes unis par un intérêt commun pour la philosophie. Nous sommes unis par une question commune nous renvoie donc à l'histoire et au fondement de la sociologie. Au fond, cette réponse, c'est celle de saint Augustin. Un amour fait une cité. Une cité est faite par un amour commun. Saint Augustin prend cet exemple, il dit le peuple qui est rassemblé au cirque, qui est un peuple extrêmement hétéroclite, qui comprend ce que nous appellerions toutes les classes sociales, des gens de toute culture, eh bien, ils sont unis par l'amour du cirque et l'amour de ce qui va les faire rire, pleurer, crier. D'ailleurs, ils crieront ensemble, ils pleureront ensemble et ils seront contents de pleurer ensemble. Oh là là, qu'est-ce qu'ils seront contents de pleurer ensemble ? Et donc c'est la thèse de saint Augustin dans La cité de Dieu. Une cité, c'est un amour fait une cité. Nous sommes unis par les aspirations que nous avons ensemble. Si tel est le cas, nous formerons d'autant mieux une société, d'autant plus une société, que nous serons plus unis autour des objectifs, des finalités de cette société. Alors c'est comme ça que régulièrement on nous sermonne sur le vivre ensemble qui supposerait d'adhérer aux mêmes, aux mêmes valeurs, aux mêmes idéaux, à la même culture, que sais-je, avoir les mêmes amours pour que nous puissions vivre ensemble. Et comme les supporters d'un match de foot dire tous ensemble, ouais, ouais, et là on est content. On est tous ensemble. On se dispersera, chacun retournera manger son sandwich, mais pendant un temps, il y a eu une communion autour d'un objectif commun. On peut trouver cette perspective naïve, et en tout cas elle n'intéresserait guère le sociologue. Elle intéresse le politique, elle intéresse le moraliste. Donc le politique et le moraliste nous disent « Allez, efforcez-vous de communier dans un idéal que vous puissiez partager. Haussez-vous jusqu'à cet idéal qui vous permettra de dépasser vos égoïsmes, vos petites particularités, votre quant à soi. Vous formerez une société lorsque vous aurez brisé la prison de votre individualisme. Et pour ça, il faut quelques idéaux communs. » C'est ce que peut dire à la rigueur le moraliste et le politique. Le sociologue, lui, devant le groupe que vous formez et se demandant si vous êtes un agrégat ou un groupe social, ne vous demandera pas pourquoi vous êtes là, ne vous demandera pas ce que vous aimez. Il vous demandera d'où vous venez. C'est-à-dire qu'il va analyser, il va vous interroger, non pas sur le fait que vous aimez la philosophie, mais il va vous interroger sur... votre revenu, votre niveau de diplôme, votre domicile, votre situation de famille et d'autres éléments objectifs qui permettront de dire que nous sommes bel et bien devant une réalité sociale et sociologique parce que nous sommes devant des individus qui sont tous dans les mêmes conditions. Non pas des individus qui ont le même idéal et le même but, mais des individus qui sont dans la même condition. Ce qui n'arriverait peut-être pas si l'on prenait effectivement une population de hasard et que l'on rassemble ici un agrégat complètement hétéroclite. Il est probable qu'un sociologue suffisamment, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'une étude bien approfondie, pour deviner sans doute que on dévoilerait aisément des origines sociales communes, un niveau de revenus commun et des tas de conditions sociologiques qui finalement sont peut-être ignorées de vous, mais constituent aux yeux de l'observateur réellement un groupe et un objet de sociologie. Ce petit exemple simple, pas si simple que ça, mais que je traite de manière simpliste, nous montre donc que si vous revenez et si vous suivez tout le cycle, un des fils conducteurs de notre interrogation sera donc celui, au fond, de la part de la conscience et de la part du déterminisme dans une réalité sociale. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est croyant ou pas, vote à droite ou vote à gauche, consomme du beurre ou de la margarine, que sais-je, aime le football ou le golf? Je peux faire apparaître des conditionnements qui permettent d'inscrire ses goûts ou ses convictions dans le réseau d'un déterminisme de type économique, culturel, politique, social, etc. Je traduirai ce problème qui va courir tout au long. C'est-à-dire quand nous lirons Aristote, ça sera assez simple. Quand nous lirons Auguste Comte, ça sera un peu plus compliqué. Quand nous lirons Durkheim, on verra que ça se complique encore davantage. Quand nous lirons Marx, nous verrons que nous sommes au cœur du problème, etc. C'est-à-dire que, au fond, toute cette interrogation, qu'est-ce qui fait une société? Est-ce que c'est l'adhésion des individus qui composent ce corps? Ou est-ce que c'est les conditions identiques ou semblables, comparables, qu'ils subissent? Eh bien, c'est tout l'enjeu des interrogations sociologiques que je vais déployer en trois dilemmes, à titre d'introduction générale à ce cycle. Premier dilemme, donc, que j'ai évoqué à travers cet exemple, c'est celui de la conscience et du conditionnement, que l'on pourrait traduire autrement en disant dilemme de la fin et de la cause, en durcissant les termes. C'est-à-dire, soit je m'interroge sur la fin que poursuit un homme, les fins que poursuit un homme, soit j'explore les causes qu'il subit. Dans un cas, je le dessine comme un être libre capable de se donner à lui-même une finalité. Dans l'autre, je souligne le conditionnement auquel il a affaire. Ce qui engage évidemment, vous le voyez, une question de méthode, puisque la sociologie se présente comme une science, se veut une science, se déploie comme une science, et elle en est souvent une. Mais elle est une science dans la mesure où elle est attentive à ces questions de méthode. Et c'est ce que Durkheim nous montrera, que je ne peux pas faire de science si je ne suis pas attentif aux questions de méthode. Et cette question de méthode, on la simplifiera en disant, est-ce qu'il s'agit, devant un phénomène social, de l'expliquer ou de le comprendre ? La distinction est classique. Elle nous vient de Diltay, un sociologue allemand, qui a écrit un livre essentiel intitulé « Les sciences de l'esprit », puisque les Allemands, ce que nous appelons « sciences humaines », eux l'appellent « sciences de l'esprit ». Et il distingue donc deux types de sciences, les sciences qui vont du côté de l'explication et les sciences qui vont du côté de la compréhension. Aller du côté de l'explication, c'est faire entrer la conduite dans une chaîne causale, le mot est peut-être fort, mais dans une chaîne qui permet de faire des prévisions. Et qui permet donc expliquer, ça veut dire déplier, vous le savez, déployer. Et donc si j'explique le phénomène social, je le déplie, je l'analyse à travers des éléments qui échappent à la conscience, mais qui nous apparaissent justement pertinents parce qu'ils échappent à la conscience. Et qui donc, du point de vue méthodologique, sont bien plus observables parce qu'ils échappent à la conscience. Si je vous demande pourquoi êtes-vous là ce soir, vous direz « Waouh, la philo, c'est fun ». Difficile à analyser. Alors que si on vous demande votre niveau de salaire ou votre situation de famille, là, c'est parfaitement objectivable et donc on peut avoir effectivement une démarche de type d'observation et de statistique sur des données, dans la mesure où ces données ne sont pas présentes, n'affleurent pas explicitement à la conscience quand on l'interroge. En effet, la conscience, elle répondrait plutôt à une question de l'ordre de la compréhension et non pas de l'explication. Qu'est-ce que c'est que comprendre ? À ce moment-là, c'est d'ailleurs expliquer, c'est déployer et comprendre, c'est saisir tout en même temps, prendre simultanément. Et donc, comprendre serait davantage partager la signification de ce qui est vécu, partager les finalités qui sont poursuivies par ceux qui ici s'expriment ou agissent. Et donc, si j'adopte une méthode explicative, je peux mettre en place ma batterie de statistiques. Si j'adopte une méthode compréhensive, j'aurai plus difficilement la position de l'observateur extérieur. Parce que je peux faire rentrer dans une grille statistique des phénomènes que je ne comprends pas du tout. En revanche, pour les comprendre, il faut bien que je les vive de l'intérieur d'une certaine manière. Tout le monde sait qu'il y a des professeurs de lettres qui sont parfaitement capables d'expliquer des textes qu'ils ne comprennent pas, puis qu'on peut supposer qu'il y a des gens capables de comprendre des textes qu'ils ne savent pas expliquer. Bon. C'est-à-dire que la compréhension est globale et se donne comme intuitive et comme partagée, commune. L'explication méthodique, analytique et ne se donne surtout pas comme partagée. Donc je peux facilement expliquer une société de Bororo de l'extérieur. Société auvergnate, c'est déjà plus difficile. Je crois comprendre ce que pense un auvergnat dans la mesure où il pense. Et donc, je peux pénétrer la réalité sociale de l'intérieur en faisant l'économie de données objectives, lourdes et soumises à quantification. Cette question de l'expliquer et du comprendre, je ne la développe pas. Je la dis de manière brutale ici. Vous m'aiderez à affiner tout ce que mes propos ont de simple. Cette distinction de l'expliquer et du comprendre est une distinction qui court tout au long des ce que l'on appelle les sciences de l'esprit ou sciences humaines, puisque vous pourriez exactement proposer la même distinction pour la psychologie. Il y a des psychologies compréhensives, des psychologies explicatives. Et c'est une distinction qui éclaire la plupart de nos démarches de connaissances. Donc le premier dilemme qui surgit à partir de la question « mais qu'est-ce qu'une société ?», je le présente donc comme un dilemme méthodologique. Alors on verra les sociologues, Bourdieu, Durkheim, Marx, travailler cette question. Est-ce qu'il faut expliquer, est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il faut être dupe de ce que l'on croit comprendre? Est-ce qu'il faut se laisser inspiré par ce que l'on croit comprendre, ou est-ce qu'il faut au contraire mettre à distance ce que l'on croit comprendre et le mettre à distance à travers un filtre qui soit quantifié? Oui, mais cette distinction méthodologique est accompagnée d'une autre qui est au fond, qui hante aussi l'histoire de la sociologie, qui est celle de la relation entre individu et société. Qu'est-ce qu'un individu ou une personne dans la société, et dans quelle mesure cet individu appartient-il au corps social? Parce que je peux bien faire une analyse sociologique du petit groupe que vous formez. Au résultat de cette analyse sociologique, je vois déjà des fauchetons qui disent « Ah mais non, moi je ne suis pas avec eux ». Non. Bon, c'est sûr, j'appartiens à la même classe sociale, mais non, ne me confondez pas, je ne veux pas être pris dans la même nasse, fut-elle statistique. La question est donc, est-ce que la vérité, on va prononcer un mot fort, mais qui a une histoire, est-ce que la vérité de la conscience individuelle est dans la société à laquelle elle appartient? Poser ainsi cette question conduit la sociologie à deux attitudes qui sont parfois simultanées, qui sont parfois tressées, parfois pas distinguées, parfois bien distinguées. Deux attitudes, une attitude que je dirais normative et une attitude que je dirais scientifique. Formulée en termes simples, ça veut dire: est-ce que l'individu doit faire corps avec le groupe auquel il appartient? Et en faisant corps avec le groupe auquel il appartient, se hausser à ce qui est plus vrai que sa petite subjectivité portative? Ou est-ce que, de fait, pris en quelque sorte de dos, l'individu est dans la nasse du groupe auquel il appartient? Est-ce que, de fait, sa vérité est dans le groupe, mais sans que lui le sache? Je développe cette analyse qui sera très précieuse pour nous si vous revenez aux autres sciences. Si vous ne revenez pas aux autres sciences, ça ne vous servira à rien, vous pouvez arrêter d'écouter. Donc, j'en vois qu'ils ont de bonnes dispositions. Je le dis vite. On passera une soirée, j'aimerais en passer plus avec Marx, c'est toute l'ambiguïté de l'attitude marxiste. Puisque d'un côté, Marx nous dit que l'individu doit se réaliser dans la classe sociale à laquelle il appartient, et d'un autre, il nous dit, de toute façon, l'individu, il appartient à la classe sociale, même s'il ne le sait pas. C'est ce que résume Malraux en disant: Dans Marx, il y a un destin et il y a une liberté. Un destin, c'est que tu le veuilles ou non, tu appartiens à ta classe sociale. Et puis il y a une liberté, c'est vas-y, tu te libéreras en appartenant à ta classe sociale. Mais est-ce que c'est le même discours? Est-ce que c'est la même démarche? Je prends un exemple simple. Donc la question est, la vérité de l'individu est-elle dans le groupe ou dans l'individu ou dans sa conscience individuelle? Je prends deux exemples simples. J'ai connu une époque, que je suis le seul assez vieux pour avoir connu ici, où l'on faisait voter à main levée pour savoir s'il fallait voter à main levée ou à bulletin secret. C'est intéressant. Quelle est la différence entre voter à main levée et voter à bulletin secret? Si vous faites un vote à bulletin secret, vous considérez que la vérité du groupe est ultimement dans la conscience de l'individu. Et qu'au fond, le groupe résulterait de l'addition, qui tiendrait lieu de cohésion, subjectivités à l'abri de l'isoloir. Si, en revanche, on vote à main levée, on vote devant le groupe, là c'est autre chose, hein. Alors vous trouverez des bonnes consciences pour dire « mais c'est dégoûtant, c'est une intimidation !» Mais vous en trouverez de bien meilleures pour dire « bien loin d'être une intimidation, ça révèle les traîtres. » Et ça révèle que la vérité est bel et bien dans le groupe. Et donc c'est en faisant voter à main levée que l'on met en évidence que la vérité est bel et bien dans le groupe, quoi qu'en pensent les hypocrites et les fauchetons. Qui doivent à ce moment-là, peut-être sous la contrainte, mais finalement faire leur la vérité du groupe. Donc vous avez toute la différence entre une analyse qui va privilégier la vérité dans la conscience individuelle et une analyse qui va privilégier la vérité comme vérité du groupe. Mais voyez, vérité du groupe, j'insiste, je voudrais me faire comprendre, en deux sens. Quand je dis la vérité de ce que dit un tel est dans le groupe, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire il faut qu'un tel adhère au groupe, puisque la vérité est dans le groupe. Ou alors ça veut dire c'est la réalité du groupe qui explique la conduite d'un tel. Donc est-ce que la vérité, quand je dis la vérité est dans le groupe, est-ce que cette vérité est ce vers quoi il faut que je me hausse, ou est-ce que cette vérité c'est ce qui me trahit dans mes mauvaises fois et mes illusions? Dans les temps bienheureux de la révolution culturelle sous Mao Zedong, il y avait constamment des réunions. Dans toutes les unités de travail, dans toutes les sphères de la société, dans toutes les sphères de la production, dans tous les bureaux, toutes les usines, tous les orchestres et toutes les universités, il y avait constamment des réunions. Ça, c'est de la démocratie. Non seulement il y avait constamment des réunions, mais chacun pouvait s'y exprimer. Ah non, devait s'y exprimer. Parce que quand il y a une réunion, l'adversaire potentiel, c'est celui qui fait la gueule, qui ne parle pas. Donc dans les réunions de Sun Mao Zedong, on n'avait pas le droit de parler, on avait l'obligation de parler. Toi là-bas, dans ton coin, t'as encore rien dit? T'en penses quoi? Là, il va falloir décider si t'es courageux ou pas. Mais ce qui apparaît comme une oppression aux yeux d'un observateur libéral des cadeaux apparaît comme une révélation de la vérité aux yeux de celui qui dit « mais ce qui est vrai, c'est le groupe ». Et ce qui est vrai, c'est le combat du groupe. Et donc toute la sociologie, on le verra particulièrement avec Durkheim, a affaire à cette question. Le rapport de l'individu au groupe est-il normatif? C'est-à-dire, est-ce qu'un individu normal, c'est celui qui communie, adhère, est semblable à ce que dit ce groupe? Ou est-ce que ce rapport est descriptif ou scientifique? C'est-à-dire que la norme, c'est non pas ce que je dégage comme l'idéal auquel il va falloir se hausser en partageant la discussion du groupe, mais c'est le système de contraintes et de conditionnement qui fait que quelqu'un est conduit à soit avoir peur, soit être influencé, soit etc. Ça pose des... Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une conduite normale? Le sociologue peut-il s'exonérer de dire ce qu'est une conduite normale? On va voir qu'il ne peut pas. Pourtant, normalement, s'il était un scientifique n'a pas besoin de l'idée de normalité. Enfin, le médecin. Mais le médecin est-il un scientifique? médecin, c'est un soignant. Le scientifique, c'est le biologiste. Pour un biologiste, le cancer est un phénomène normal. Normal qui est accélération de la dispersion des cellules. C'est pour le médecin que c'est pas normal. Parce que le médecin, il répond aux finalités. Qui sont les finalités de qui? Les finalités du malade. Donc la distinction du normal et du pathologique, du normal et du déviant, du délinquant même, est une distinction qui nous plonge d'emblée dans l'ambiguïté donc, de la relation entre l'individu et la société. Par exemple, nous allons le voir, Durkheim n'hésite pas à dire qu'il y a un taux de criminalité normal. Ce qui fait qu'à la limite, on pourrait dire qu'une société sans criminalité n'est pas normale. Il faut se préoccuper de ce que serait une société qui ne connaîtrait pas la criminalité. Bon. Donc ça sera la deuxième problématique que nous serons conduits à recouper. Donc première problématique, expliquer ou comprendre. Deuxième problématique, que vaut l'idée de norme? Peut-on esquiver l'idée de norme en matière de sciences humaines? Tout simplement d'ailleurs, parce que le psychologue ne le peut pas davantage. Hein. Donc le sociologue ne peut pas non plus échapper, enfin donc en tout cas c'est ce que nous dira Durkheim, puisque c'est ce que va nous dire Marx, puis à sa manière c'est ce que va nous dire Bourdieu. Le sociologue ne peut pas échapper au fait qu'il va dire que cette situation est normale ou pas. Et puis alors évidemment on pourra tout de suite lui poser la question, mais alors si tu dis que c'est normal, est-ce que tu le tiens de ta sociologie ou d'une morale que tu introduis subrepticement et qui vient d'ailleurs que les résultats de ta sociologie qui te disent simplement qu'il y a un certain taux de criminalité. C'est que, je termine sur ce deuxième point, on s'est demandé pourquoi formez-vous une société? Il y a deux réponses. Je forme une société parce que nous sommes tous venus écouter une conférence, ou nous formons une société parce que nous subissons des conditionnements semblables. Donc il y a une réponse par... En faisant gros, une réponse par la finalité, une réponse par la causalité. Et dans les conduites humaines, on ne peut pas échapper à la considération de la fin. C'est pour ça qu'il y a des médecins. Parce qu'un médecin ne va pas vous dire, tu sais, le cancer est un phénomène parfaitement explicable. Un homme, il introduit des finalités. Et donc quand j'aborde la réalité humaine et quand je veux faire une science de la réalité humaine, je ne peux pas ignorer les finalités. Donc, par exemple, je ne peux pas ignorer l'articulation de la sociologie et de la politique. Puisqu'un sociologue sera bien obligé de dire à partir de quel moment c'est normal ou pas. Enfin, en tout cas, on aura envie de lui poser la question. Alors, peut-être qu'il dira, vous savez, moi, je suis un scientifique. Mais l'objet qu'il travaille est un objet de soi finalisé. Comme le biologiste, il travaille un corps, mais le corps est un objet de soi finalisé. Donc, il y a peut-être le biologiste, mais il y a aussi le médecin. Il y a peut-être le sociologue, mais il y a aussi le politique. Et ils ont des choses à se dire. En tout cas, si le politique consulte le sociologue, c'est comme le médecin consulte le biologiste. C'est pour savoir quelque chose qui a trait aux fins. Ça nous conduit à la troisième alternative que je voulais présenter en introduction, en longue et pénible introduction à ce cycle sur les grandes doctrines sociales. Donc doctrine sociologique, qui est en filigrane à travers tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire la distinction de l'expliquer et du comprendre, la distinction du normatif et de l'explicatif, c'est quelle portée attribuer à la conscience. Est-ce que un phénomène sociologique s'interprète par rapport à la conscience que les acteurs en ont? Si je vous interroge naïvement sur les raisons pour lesquelles vous êtes venu, ça veut dire que je prête foi à la transparence de la conscience. Je me dis, il est venu écouter de la philo, je le crois. Il est venu écouter de la philo. Mais si, par ailleurs, j'observe que tous ou presque tous, statistiquement, puisque la statistique est l'instrument de la sociologie, relevez d'un même déterminisme, je peux aussi bien dire que la conscience que vous avez est illusoire. Vous croyez que vous aimez la philosophie, vous croyez que vous agissez pour des motifs qui vous sont propres et qui sont libres. En fait, en réalité, vous résulter d'un processus que vous ignorez, qui vous échappe. Ça, c'est l'enjeu de toutes les sciences humaines. C'est pourquoi les sciences humaines sont contemporaines de ce que l'on a appelé les philosophies du soupçon. En deux mots, on appelle philosophie du soupçon, incarnée par la trinité Nietzsche, Marx et Freud, des philosophies qui ont pour point commun d'avoir placé la source de l'erreur dans la conscience même. Jusqu'à présent, les philosophes nous disaient « Attention, la source de l'erreur, c'est l'essence, c'est le corps, c'est l'imagination, c'est... etc. » Et les philosophes essayaient d'atteindre la conscience dans sa forme la plus exonérée possible des influences charnelles, matérielles, extérieures, parce qu'on pensait que la source de l'erreur était en dehors de la conscience, en dehors de la raison. Waouh ! Si on se met à dire que la source de l'erreur est à l'intérieur même de la raison, à l'intérieur même de la conscience, à ce moment-là, on ne parlera plus d'erreur, on parlera d'illusion. C'est ce que font Nietzsche, Marx et Freud. Ils disent une illusion est au cœur de la conscience. C'est-à-dire qu'il est plus, écoutez-moi bien, Nietzsche, Marx et Freud ont en commun de dire que c'est pas de sa faute, c'est pas une conscience négligente, c'est pas une conscience un peu étourdie. Il est nécessaire et inévitable qu'une conscience se trompe sur elle-même. C'est ce que dit Marx quand il dit « La conscience est une camera oscura », une chambre noire qui inverse les images. C'est ce que dit Nietzsche quand il dit que la conscience n'est jamais que l'effet d'une maladie du troupeau. C'est ce que dit Freud quand il pense que toute conscience est erronée sur elle-même. Là, on est vachement embêté. Hein. Parce que vous allez trouver qui ? Quoi que tu fasses, à partir du moment, la conscience t'offre nécessairement une image mystifiée de toi-même. Nécessairement. C'est pas de ta faute, c'est pas nécessairement. L'analyse en est sublime dans l'idéologie allemande de Freud. J'espère qu'on aura le temps d'ouvrir ensemble cette page de Marx, cette page absolument parfaite de Marx, dans laquelle Marx montre pourquoi toute conscience est nécessairement abusée sur elle-même. Chacun d'entre vous, pendant que je dis ça, est en train de se dire « Oui, mais alors, celui qui dit ça, lui, il est indemne de cette illusion ? Quel est le point de vue de Sirius qui va lui permettre de dire « Ah, toi, tu te trompes sur ton propre statut ?» C'est-à-dire qu'on peut toujours faire une analyse du soupçon de Marx, de Nietzsche et de Freud. Puisque Marx, Nietzsche et Freud ont ouvert l'analyse du soupçon, je suis étonné qu'on ne s'avise pas plus souvent de la leur retourner et de dire « Mais après tout, toi-même, tu dépends des conditions sociales dans lesquelles tu es ou des conditions du troupeau dans lesquelles tu es ou des pulsions dont tu es le jouet. » Donc si on dit que toute conscience est nécessairement trompée sur elle-même, on rend possible. Donc l'enjeu est celui que nous vivons. Enfin, j'espère que je suppose que je suis assez clair pour que vous rendiez compte que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Si vraiment on pense que toute conscience est porteuse nécessairement d'une illusion sur elle-même, ça rend possible une démarche scientifique. Parce que si, pour savoir qui est quelqu'un, il suffisait de le lui demander, tous les psychologues sont au chômage. Qui êtes-vous ? Et si j'ai confiance naïvement dans votre réponse, plus besoin de psychologue. Il faut que je pense que celui qui me répond se trompe, a une conscience erronée ou occultée ou partiellement occultée. Et si pour savoir à quelle classe sociale appartient quelqu'un, il suffisait de lui demander, d'abord tout le monde serait dans la classe moyenne, et puis tous les sociologues seraient au chômage. Donc toute science humaine repose sur l'hypothèse d'un inconscient. Il n'est pas possible de constituer une science humaine sans faire l'hypothèse d'un inconscient. Qu'il soit biologique chez Nietzsche, social chez Marx ou psychologique chez Freud. Et c'est cette hypothèse d'un inconscient qui rend possible une approche méthodologique et scientifique qui permette de prendre à revers cette conscience sur ses illusions et même de dénoncer ses illusions. Moi, ça me passionne.
L'essentiel, c'est qu'il y en a un que ça passionne, et autant que ce soit moi.
Je vous invite à repenser à ce qu'on vient de parcourir. C'est toute notre culture, un grand nombre d'enjeux de notre culture sont là. C'est au fond, au nom de quoi dire de quelqu'un qui se trompe. C'est tout. Au nom de quoi dire de quelqu'un qui se trompe sur lui-même. Quelle est la science qui me permettra de parler sur le mode du « il » et pas sur le mode du « je » et qui me permettra donc d'analyser la conduite de quelqu'un qui se trompe sur lui-même. Bon, alors j'insiste pas, mais vous êtes tous convaincus qu'on se trompe sur soi-même. Tous. Vous êtes tous convaincus que si quelqu'un épouse sa femme, en fait, il se trompe, c'est sa sœur. Que les gens qui brûlent des voitures, c'est des demandes de dialogue. Que ceux qui font la charité, c'est un geste de violence. Enfin bon, on n'en finit pas, quoi, du soupçon. On n'en finit pas.
Voilà l'enjeu.
Aristote est bien loin de ça. Aristote est bien loin de ça, mais il faut commencer par lui parce que il ne le savait pas, mais on peut le considérer donc comme le premier penseur du social comme tel. C'est un baptême après coup, hein, donc je ne vais pas m'en excuser 10 fois. Mais dans une perspective qui nous paraît extrêmement naïve, et je souligne d'emblée cette naïveté parce que Aristote est persuadé que le lien social se pense en termes de fin et pas en termes de cause. C'est-à-dire qu'il est persuadé que l'appartenance au corps social, à la cité, est la finalité de l'homme. Voyez l'ambiguïté de la formule. La vérité de l'individu dans la société. Oui, Aristote pourrait presque souscrire à cette formule, peut sans doute souscrire à cette formule. La vérité de l'individu dans la société. Un individu est un homme pour autant que... Donc, que va nous montrer Aristote à travers les quelques petites pages que nous allons ouvrir ? Aristote va nous montrer qu'un individu n'est un homme que pour autant que il prend part à la cité. Donc, Aristote nous dit bien que la vérité de l'individu est dans la cité. Et que cette vérité, elle doit être pensée en termes de finalité et non pas en termes de causalité. Donc une science va me dire la vérité de ta conduite est dans le groupe social auquel tu appartiens, mais comme déterminisme. Alors qu'Aristote me dit ta vérité est dans le groupe auquel tu appartiens, mais non pas comme déterminisme, mais comme fin vers laquelle tu dois te hausser. Qu'est-ce qu'un athénien ? Pour le comprendre... Alors, il y a 36 entrées, j'en choisis une. Il faut comprendre d'abord ce principe fondamental de la philosophie et d'Aristote, qui est que le tout précède la partie, qui est un point fondamental de la sociologie. Le tout précède la partie, ça veut dire que la partie ne vaut comme partie, d'ailleurs, que pour autant qu'elle appartient à tout. Comment savons-nous que c'est une partie si nous ne connaissons pas le tout ? Donc, ce qui donne... La vérité de la pièce du puzzle, c'est le puzzle. Le tout précède la partie, se décline à travers deux autres affirmations. D'une part, le tout est ordonné, qui est un point fondamental et sur lequel la philosophie ne peut pas revenir. Si un jour vous entendez un philosophe qui vous dit le contraire, vous lui tournez le dos. Donc la conviction de fond de toute la philosophie, c'est le tout est ordonné. Le tout se distinguant de la somme. La somme, elle existe partes extra partes, elle est additionnelle. Le tout, c'est ce qui permet précisément de constituer une unité. Et donc le tout est ordonné, ça veut dire que c'est le puzzle qui donne la vérité de la pièce du puzzle. Et quand je pense le tout, je pense, je veux bien revenir sur cette idée si jamais elle vous fait difficulté, parce que c'est vraiment une idée fondamentale et simple de la philosophie. Donc quand je pense le tout, je pense nécessairement un ordre, c'est-à-dire ce qui peut, ce qui permet des prévisions d'une partie à l'autre. Un puzzle disloqué ne permet pas une prévision d'une partie à l'autre. Si le tout est ordonné, chaque partie du puzzle a sa place, et donc je peux penser cette place au sein d'un ensemble. Donc ce tout ordonné, l'image de ce tout ordonné, c'est le cosmos. Et donc les Grecs, comme nous devrions le faire, contemplaient le ciel étoilé et ils voyaient un ordre parfait. Et cet ordre parfait, ils le pensaient comme clos, fini, accompli et est tel que la raison peut s'y reconnaître. Premièrement, le tout est ordonné. Deuxièmement, le tout, j'en ai dit quelques mots, vaut comme fin. C'est-à-dire que si j'étudie une genèse, un process, si vous voulez parler moderne, la compréhension de cette genèse se fait à partir de la fin et non pas à partir des causes antécédentes qui viennent bousculer le phénomène sous forme de force. Attention. Bon, j'explique quand même. C'est un peu difficile à comprendre, ça. Vous ne le comprenez pas. Je vais vous expliquer une idée dont je vous annonce à l'avance que vous ne la comprendrez pas, d'accord ? Parce que chaque fois qu'on parle du finalisme des anciens, les modernes n'y comprennent rien, parce que pour nous, une fin, c'est un but. Mais pour les anciens, une fin, ce n'est pas un but. Un but, c'est quelque chose que l'on projette, qu'une volonté détermine, qu'une volonté flèche vers son avenir. Lorsque Aristote dit que le tout vaut comme la fin, ça ne veut pas dire que c'est le but que l'on poursuit. Ça veut dire que c'est l'excellence qui nous attire. La fin, pour un grec, ce n'est pas ce que l'on vise, c'est ce qui nous attire. Je vous le dis, mais vous ne le comprenez pas. Et vous ne pouvez pas le comprendre. Parce que comme nos contemporains, par exemple, quand vous parlez de sexe, vous parlez de pulsion et non plus d'attirance. Vous êtes foutus. Et on parle de pulsion parce qu'on privilégie les causes mécanistes. Si je parle d'attirance, je comprends la fin, non pas comme le but, mais comme ce qui me fait advenir, ce qui me donne envie de me lever, d'agir et de partir. Et donc, lorsque Aristote dit « le tout vaut comme la fin », c'est que c'est ce à quoi aspire la partie, non pas ce qu'elle vise, mais son bonheur. Et le bonheur, pour Aristote, n'est pas ce que l'on vise, c'est ce qui nous attire. Le jour où je pourrais dire « voilà ma place ». Bon, je l'aurais dit. Nous sommes dans la politique, maintenant traduit les politiques. Je vous donne la pagination universelle, comme ça, si vous voulez chercher, vous retrouverez. En 1252b, 1253 A. Que nous dit Aristote ? Il nous dit « C'est pourquoi toute cité est un fait de nature, s'il est vrai que les premières communautés le sont elles-mêmes. » On reviendra là-dessus. « Car la cité est la fin de celle-ci, et la nature d'une chose est sa fin. » Vous voyez que vous ne comprenez rien. La nature d'une chose est sa fin. La nature de l'homme, ce n'est pas l'embryon qui va se développer sous des causes mécaniques. Ça, c'est les mécanismes de ce que l'on appelle la nature, traduit en termes contemporains. Lorsqu'un ancien parle de la nature de l'homme, c'est ce qu'un homme a à être et qui lui dit « viens, Nicois, viens par là ». Il lui dit « suis-moi ». Et non pas « je vise, je construis ». On parle de construction, se construire soi-même. Pour un grec, ça ne veut rien dire, se construire soi-même. Puisque le tout précède la partie, puisque le tout vaut comme la fin, et que le tout est ce qui agit sous la forme de l'attraction. Je ne me construis pas, je crois. C-R-O-I, accent circonflexe, T. Ce qui d'ailleurs est la racine du mot fuein, qui veut dire croître. Fusis, qui est nature, c'est le lieu de la croissance. Et donc un fruit qui croît, c'est R-O-I, accent circonflexe, T, il est attiré par sa fin. Il y a bien longtemps qu'Aristote a résolu le problème de la poule et de l'œuf. Il est évident que c'est la poule qui est la fin. Parce que le bonheur d'un œuf, c'est de devenir poule. Pensez à tous ces œufs qui ne sont pas devenus poules. Le bonheur d'un lapin, c'est de devenir civet. Pensez à tous ces lapins qui ne sont pas devenus civets. Et donc, dont personne ne veut. La cité donc est la fin, et la nature d'une chose est sa fin, puisque ce qu'est une chose une fois qu'elle a, puisque c'est ce qu'est une chose une fois qu'elle a atteint son complet développement, nous disons que c'est la nature de la chose, aussi bien pour un homme, un cheval ou une famille. En outre, la cause finale, c'est-à-dire celle qui vaut comme attraction, hein, pas comme but. En outre, la cause finale, la fin d'une chose, est son bien le meilleur, le bien de l'œuf est de devenir poule. Et la pleine suffisance est à la fois une fin et un bien par excellence. Et un peu plus loin, on peut lire, quand même si, je le lis, parce qu'évidemment la conséquence, vous la voyez tout de suite, c'est que la cité est antérieure à l'individu. D'ailleurs, on chercherait bien en vain un individu qui soit né comme ça, on ne sait pas où. Le contrat social de Rousseau, on ne sait pas d'où ils viennent, ces gars. Rousseau pense une société où tout le monde naît orphelin et meurt célibataire. Et ces individus, pourquoi se rejoindraient-ils s'il n'y avait pas précession du tout sur la partie? Et si je n'étais pas toujours déjà dans une société, avant d'être un individu qui ensuite, par calcul, par opportunisme ou par bonne volonté, ferait société. Nous ne sommes pas des individus, personne d'entre nous n'est né un individu qui ensuite tiens, va dire « tiens, on va prendre un contrat ». Nous sommes toujours déjà nés, plus ou moins facilement, mais dans une société qui existe toujours déjà. Et qui par là même est toujours antérieure et chronologiquement et ontologiquement par rapport à l'individu. C'est la raison pour laquelle, aux yeux d'Aristote, la politique, c'est-à-dire la réflexion sur l'action dans la cité, la réflexion sur les affaires humaines dans la cité, c'est la raison pour laquelle, aux yeux d'Aristote, la politique est la science architectonique, c'est-à-dire celle en vue de laquelle toutes les autres existent. Puisque, pour Aristote, une activité est accomplie pour autant qu'elle accomplit la fin qui est la sienne. Alors, il prend un exemple, il dit, ben voilà, le sellier fabrique des selles. La fin du sellier n'est évidemment pas la selle. Qui va prescrire sa fin au sellier? C'est le cavalier. J'ai une question test pour vous. Es-tu aristotélicien? Vous savez, comme dans Biba, es-tu un bon coup? Tu coches. Es-tu aristotélicien? N'es-tu pas aristotélicien? Eh bien, pour savoir si tu es aristotélicien, réponds à la question suivante. Qui est-ce qui juge qu'une chaussure est bien faite? Le cordonnier ou le marcheur? Vous répondez le marcheur, vous êtes aristotélicien. Vous répondez le cordonnier, vous êtes un technicien parfait. Idéaliste, quelque peu. Qui dit, c'est le cordonnier qui dit la bonne chaussure. Mais non, nous le dit Aristote. Ce qui dit la bonne chaussure, c'est le marcheur. Donc c'est le cavalier qui va dire quelle est la bonne selle. Mais le cavalier lui-même, il est au service de quoi? Il est au service du stratège. Car on ne faisait pas du cheval pour le plaisir en Grèce. Donc il est au service de l'armée. Et c'est donc le stratège qui va dire si ce cavalier est bon. Mais le stratège, qui va dire qu'il est bon? La cité. Et Aristote nous dit, on n'ira pas plus loin. C'est pour ça que la politique est une discipline architectonique, c'est-à-dire celle qui propose à chaque conduite sa fin ultime. Et qui nous fera dire, voilà un bon stratège, voilà un bon cavalier, voilà un bon sellier. Sinon je dirais, c'est pas un sellier ça. Je dirais, c'est pas un cavalier ça. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas accompli sa fin. Ce qui rend possible cette orientation vers la fin, c'est évidemment que la nature qui se donne comme fin se donne aussi comme nous, en nous comme disposition. Car je n'aurai pas comme fin ce que je n'ai pas en moi comme disposition. C'est un principe fondamental de la philosophie. Il ne faut jamais demander à un fer à repasser de s'envoler. Sinon, on le désespère. Donc, vous pouvez toujours dire au fer à repasser, ta finalité, c'est de t'envoler. Le pauvre, il va désespérer de lui-même. Donc, ce qui m'est donné comme fin, il faut que ça me soit donné comme disposition. Quelle est cette disposition qui m'oriente vers la fin? Et c'est là qu'on touche un point qui fait que c'est bon, me semble-t-il, de commencer par Aristote avant d'aborder les grands sociologues. Aristote, donc, n'était pas sociologue, pour des raisons que vous voyez bien. Il dit, cette disposition qui nous oriente vers notre fin, c'est l'amitié. Il y a une amitié naturelle de l'homme pour l'homme. Amitié, c'est comme ça qu'on traduit le mot philia. Ne lui donnez pas une résonance affective. L'amitié, chez Aristote, ce n'est pas ce qui fait l'affection, les bons sentiments, les émotions communes, que sais-je. Non, c'est ce qui donne des raisons de se lier à. Et qui fait de nous des soci, des gens qui appartiennent à la même société. Et donc, pour Aristote, il y a une amitié naturelle de l'homme pour l'homme. Je vous invite à bien retenir cette idée, parce que nous autres modernes, nous sommes façonnés par la doctrine de Hobbes, qui nous dit qu'il y a une guerre de l'homme avec l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Et lorsque Hobbes dit « l'homme est un loup pour l'homme », il sait très bien, lui, qu'il prend le contre-pied d'Aristote qui disait « l'homme est un dieu pour l'homme ». Hélas, les gens lisent Hobbes en oubliant ce que Hobbes savait. Et donc, lorsque Hobbes dit « l'homme est un loup pour l'homme », il sait très bien qu'il reprend la formule d'Aristote « l'homme est un dieu pour l'homme » et qu'il la mine. Et qu'il nous pose la question difficile « comment pourrons-nous vivre ensemble si nous nous détestons ?» Bon, ce qui est une très bonne question. Mais Aristote ne pense pas ainsi. Il pense que j'ai en moi une disposition qui est amitié, donc de l'homme pour l'homme, attirance de l'homme pour l'homme. Et cette amitié naturelle de l'homme pour l'homme, elle a, pour ainsi dire, deux niveaux. Quand vous lirez Aristote, vous verrez que je simplifie. Premier niveau, un niveau qu'on pourrait dire vital, c'est-à-dire ce qui m'ordonne à la société, c'est la vie. Et c'est la vie sous les deux aspects fondamentaux, une femme, un bœuf. C'est-à-dire, nous dit Aristote, pour qu'il y ait une société, il faut que nous ayons besoin de ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Et il y a deux choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Un enfant, essayez, hein. Et le travail. Et donc les deux réalités qui, naturellement, nous oriente vers l'être social, c'est ce qui fait que l'individu est impossible. L'individu enfermé dans ses 2 mètres carrés de peau, avec sa subjectivité individuelle et portative, c'est absolument impossible. Ou alors il faut que, effectivement, on pense que, je ne sais pas quoi, donc il va faire des contrats. Car j'ai besoin de l'autre. Aimer, c'est dire « I need you » en grec. Un homme dit à une femme « j'ai besoin de toi ». Une femme dit à un homme « j'ai besoin de toi ». Pourquoi ? Pour faire un enfant. Et puis un homme a besoin d'un bœuf. Pourquoi ? Ben pour cultiver la terre. À défaut de bœuf, il prendra un esclave. Donc il peut avoir besoin d'un esclave. Donc pour Aristote, il y a deux formes naturelles du lien social. C'est le lien inévitable à la femme et à l'esclave. C'est au début de la politique. La première union nécessaire, c'est 1252a. La première union nécessaire est celle de deux êtres qui sont incapables d'exister l'un sans l'autre. C'est le cas pour le mâle et la femelle, en vue de la procréation. C'est encore le cas pour l'union de celui dont la nature est de commander, le maître, avec celui dont la nature est d'être commandé, en vue de leur conservation commune, puisque le maître et l'esclave ont tous deux besoin de la conservation. En effet, pour ce dernier cas, donc le maître et l'esclave, l'être qui par son intelligence a la faculté de prévoir, le maître, est par nature un chef et un maître, tandis que celui qui, au moyen de son corps, est seulement capable d'exécuter les ordres de l'autre, est par sa nature même un subordonné et un esclave. De là vient que l'intérêt du maître et celui de l'esclave se confondent. En effet, c'est la nature qui a distingué la femelle et l'esclave. Alors, vous voyez bien comment cette page est lourde de questions. Mais il faut la lire avant de la bombarder de nos préjugés. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il est en train de nous dire que la réalité sociale est naturelle, c'est-à-dire que j'y suis porté par des nécessités vitales. Et puis il est en train de nous dire autre chose, qui évidemment la sociologie va saper, c'est que les distinctions sociales sont naturelles et induisent des hiérarchies naturelles. Un grec pense ça sans barguigner, ça ne le gêne pas trop, sauf Platon. Chez Platon, il y avait égalité des hommes et des femmes, il n'y avait pas d'esclaves. Mais Aristote, ça ne le gêne pas du tout de dire la femme est naturellement inférieure, l'esclave est naturellement inférieur, et il y a des gens qui sont naturellement faits pour commander et naturellement faits pour prévoir, et l'inférieur et le supérieur ont le même intérêt à coopérer pour former une cité. Alors c'est pour ça que je dis, évidemment, Aristote n'est pas sociologue, parce que le sociologue, lui, il va faire apparaître la société comme une construction. Donc il va faire apparaître que la relativité et la versatilité des conditions sociales, sexuelles ou économiques. Chez Aristote, qui pense naïvement la question de la finalité sociale, sans soupçon, c'est pas un philosophe du soupçon, hein. Il dit, ben voilà, ce qui fait une société, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Toutefois, ça c'est le premier niveau du lien social, c'est le lien social pour vivre. Mais il y a un deuxième niveau du lien social que d'ailleurs Aristote est obligé de reprendre à cause des admonestations de Platon, c'est que il ne suffit pas de vivre, il faut vivre bien. Et vivre bien pour un homme, ce n'est pas simplement avoir une femme et un bœuf. Vivre bien pour un homme, c'est participer aux œuvres de l'esprit. Et ça, c'est ce qui manifeste de la manière la plus profonde l'amitié de l'homme pour l'homme. Parce que cette amitié de l'homme pour l'homme est mise en évidence par Aristote, non pas seulement donc par la présence de la femme, du bœuf ou de l'esclave, qui sont le lien vital, mais par la présence de la parole. Voilà pourquoi, chez Aristote, les deux définitions sont équivalentes, l'homme animal social ou l'homme animal qui parle, ou animal rationnel, animal doué de parole. Parce que, dit Aristote, la parole n'est pas faite pour échanger des émotions, ça c'est le cri, la parole, elle est faite pour chercher la vérité ensemble. Et donc, nous sommes naturellement orientés vers le lien social dans la mesure où nous sommes des êtres de parole et que quiconque parle pose la question de ce qui est vrai. Waouh ! Et que c'est là que les hommes accomplissent leur vocation la plus haute. C'est là qu'ils sont le plus heureux. Pourquoi sont-ils le plus heureux ? Comme est heureux l'œuf qui est devenu poule. Un homme qui raisonne, comme moi ce soir, il est vachement heureux parce que il réalise ce pourquoi il est fait, il accomplit ce pourquoi un homme est fait. Il n'est pas fait pour simplement signer des contrats et vendre des objets, ce qui est très très bien, il faut le faire, mais il est là pour parler et pour parler, pour dire le vrai, pas pour communiquer. Vous ne me croyez pas. Que l'homme soit un... C'est 1253 A. Que l'homme soit un animal politique à un plus haut degré qu'une abeille ou tout autre animal vivant à l'état grégaire, cela est évident. La nature, en effet, toujours elle, ne fait rien en vain. Et l'homme, seul de tous les animaux, possède la parole. Or, tandis que la voix ne sert qu'à indiquer la joie et la peine et appartient pour ce motif aux autres animaux également, le discours sert à exprimer l'utile et le nuisible, par suite aussi le juste et l'injuste. C'est le caractère propre de l'homme, par rapport aux autres animaux, d'être le seul à avoir le sentiment du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et d'autres notions morales, et c'est la communauté de ces sentiments qui engendre la cité. Donc il ne faut pas s'arrêter à dire ce qui engendre la cité, c'est la femme et le bœuf. Ce qui engendre la cité, c'est que nous parlons. Et qu'en tant que nous parlons, nous posons la question du juste et de l'injuste. Et une cité qui ne nous conduit pas à ça n'est pas une cité. Elle restera un troupeau, un truc, un nid d'abeilles. Voilà pourquoi, pour Aristote aussi, parce que la cité est une réalité naturelle, il est également naturel que les cités soient diverses. Vous avez sûrement, dans les conversations, entendu cet argument insupportable qui consiste à dire « La preuve que ce n'est pas naturel, c'est qu'il y a une diversité de coutumes. » Non, c'est la diversité qui est naturelle, c'est l'uniformité qui est artificielle. Il y a des tulipes, il y a des roses, il y a des pétunias, des lilas et des pissenlits. L'idée d'uniformité est un résultat de l'intelligence calculante. La réalité naturelle est nécessairement multiforme. Et voilà pourquoi Aristote ne dit pas du tout qu'il faudrait qu'il existe que si la réalité était naturelle, alors tout le monde aurait la même constitution. Il dit exactement le contraire. Si la cité est naturelle, alors il est bien naturel que tout le monde ait une constitution différente. Et on ne va pas, dit Aristote, se mêler de dire quelle est la bonne constitution pour les Syriens ou les Irakiens, dit Aristote. Les Syriens ont leur constitution, les Irakiens ont leur constitution. Ce qui est naturel, c'est qu'il y ait une diversité des constitutions. Et pourquoi ? Précisément parce que ce qui fait une cité, c'est une philia. Vous ne me croyez pas ? Vous ne croyez pas qu'Aristote le dit ? Si, il le dit. Il le dit. Page 1280A, 1280B. Les hommes ne s'associent pas en vue de la seule existence matérielle, mais plutôt en vue de la vie heureuse. Ils ne s'associent pas non plus pour former une simple alliance défensive, l'OTAN par exemple, dit-il, contre toute injustice, et pas davantage en vue d'échanges commerciaux, la construction européenne, met-il, et de relations d'affaires les uns avec les autres. Car à ce compte-là, si les hommes se réunissaient pour faire des alliances défensives et des alliances commerciales, eh bien, à ce compte-là, les Tyréniens et les Carthaginois, ainsi que les autres peuples liés entre eux par des traités de commerce, seraient comme les citoyens d'un seul État. Or, il existe bien en vérité, chez eux, des conventions réglementant les importations, des traités interdisant les injustices et des alliances constatées par écrit. Mais il n'y a pas de magistrature commune à toutes les parties contractantes. Aucun des États signataires ne se soucie de la moralité des citoyens de l'autre État. C'est-à-dire les Belges, les Italiens, les Polonais, les Autrichiens et tous peuvent bien conclure des traités militaires, des traités commerciaux, mais ne feront jamais une cité aux yeux d'Aristote. Et pourquoi ne feront-ils jamais une cité ? Parce qu'il n'y a pas entre eux de philia. Il y a des intérêts, mais il n'y a pas de philia. Et la preuve qu'il n'y a pas de philia, c'est que mais alors, la moralité des Italiens, ils s'en foutent. Ils ont des contrats avec les Italiens, ils ont des accords militaires, mais vous voyez la nature du politique. Quel homme politique nous dit aujourd'hui que le souci politique, c'est la moralité des citoyens ? Si, on a quelques discours moralisateurs un peu sirupeux. Mais la question... Maintenant, les hommes politiques nous disent « je suis là pour vous rendre heureux », qui nous laissent nous démerder. La vraie responsabilité, c'est « je suis là pour vous rendre vertueux ». Mais Saint-Jules a dit « le bonheur est une idée moderne ». Bon, il y a d'autres pages délicieuses, mais je passe plus vite. Donc, de la même manière que la diversité des cités est naturelle, de la même manière, la diversité, donc je le dis simplement pour pointer l'idée, de la même manière, donc on l'a entrevu, la diversité de ce que nous appelons les classes, qui est un mot qui est d'origine marxiste, la diversité des classes est, pour Aristote, naturelle. Donc vous l'avez vu, il y a des esclaves qui sont naturellement esclaves. Il y a des hommes libres qui sont naturellement hommes libres. On sait que les esclaves sont naturellement esclaves parce qu'ils ont un corps vigoureux et un peu lourd. Puis on sait que les hommes libres sont naturellement hommes libres parce qu'ils sont bâtis comme des Apollons. Je vous lis le passage quand même parce qu'il est, il est intéressant. Et il vous permettra, si vous revenez pour les autres, de voir tout le travail conceptuel qui a été fait au fil des siècles sur ces notions-là. C'est un vrai feuilleton. Quand des hommes diffèrent entre eux, autant qu'une âme diffère d'un corps et un homme d'une brute, ceux-là sont par nature des esclaves pour qui il est préférable de subir l'autorité d'un maître, si l'on en croit les exemples que nous avons cités. Est en effet esclave par nature celui qui est apte à être la chose d'un autre, et c'est pourquoi il l'est en effet, et qui a la raison en partage, mais dans la mesure seulement où elle est impliquée dans la sensation. C'est-à-dire que l'esclave, comme la femme, n'a pas toute la raison. Il a assez de raison pour obéir aux ordres, mais il n'a pas assez de raison pour en donner. Il vaut mieux qu'il ait un peu de raison pour obéir aux ordres. Il faut quand même qu'il comprenne les ordres. Mais donc il n'a que la partie sensible des opérations intellectives, il n'a pas l'ultime partie contemplative qui est réservée aux hommes libres. Donc il a la raison en partage, mais dans la mesure seulement où elle est impliquée dans la sensation, mais sans la posséder pleinement. Les animaux autres que l'homme ne sont même pas capables de participer à cette forme de raison, et ils obéissent passivement. Et effectivement, l'usage que nous faisons des esclaves ne s'écarte que peu de l'usage que nous faisons des animaux. Le secours que nous attendons de la force corporelle pour la satisfaction de nos besoins indispensables provient indifféremment ou des animaux ou des esclaves. La nature tend assurément aussi à faire des corps d'esclaves, différents de ceux des hommes libres, accordant aux uns la vigueur requise pour des gros travaux, et donnant aux autres la station droite, et les rendant, de ce fait, impropres aux besognes de ce genre. Mais utilement adaptés à la vie de citoyen, puisque la vie de citoyen, elle consiste à adresser des discours. Donc pour adresser des discours, il vaut mieux avoir une tenue droite. Donc pensez-y quand vous regardez la statuaire grecque. Une chose du moins, d'ailleurs, l'allusion à la statuaire grecque, vous la comprendrez encore mieux dans les lignes qui suivent. Une chose du moins est claire, si les hommes libres, à s'en tenir à la seule beauté corporelle, l'emportait sur les autres aussi indiscutablement que les statues des dieux, tout le monde admettrait que ceux qui leur sont inférieurs méritent d'être leurs esclaves. Donc les statues à travers lesquelles... Vous pensez bien qu'il n'y avait pas beaucoup de Grecs qui ressemblaient aux statues d'Apollon. Ils avaient tous des bras cassés, ils étaient tous manchots, ils étaient tous tordus, ils étaient tous, etc. Et donc, ils incarnent à travers leur statut quelque chose qui les écrase, au niveau duquel ils ne sont absolument pas. Peut-être quelques héros des Jeux Olympiques, mais qui précisément s'en trouveront divinisés. Mais sinon, l'homme grec ordinaire, il était comme les petits vieux de mon temps, c'est-à-dire il était tout cassé, etc. Nous terminerons par ce point. Donc j'ai présenté ce soir rapidement les grandes problématiques. On retrouvera, normalement, si on ne les retrouve pas, il faudra que vous protestiez, en lisant donc les grands auteurs que nous allons rencontrer. Et puis j'ai commencé donc par ce premier penseur du fait social qui nous met avec une espèce de naïveté abrupte devant les enjeux donc, que j'ai présentés dans la problématique, c'est-à-dire, il nous dit, ben voilà, oui, la vie sociale est une finalité, donc elle ne s'explique pas par des mécanismes. Oui, les distinctions sociales sont naturelles, donc elles ne résultent pas d'une construction, elles ne peuvent pas être reconstruites, elles ne peuvent pas être démolies puis remolies. Et donc on a une sorte d'archétype pour penser maintenant la sociologie en le référant à ces pages lumineuses, un peu naïves peut-être, enfin, qui sommes-nous pour dire qu'Aristote est naïf, mais qui nous mettent bien d'emblée devant les grandes questions.